Je voudrais d'abord vous remercier Pierre Corvol d'être venu vous parler d'un sujet qui concerne particulièrement ceux qui passent les concours de lettres, puisqu'ils ont le thème de la science. Et il m'a paru intéressant de prendre comme exemple une discipline comme la médecine, qui pose beaucoup de questions quant à son statut de science, même si aujourd'hui il est plus ou moins avéré. Et donc, on a décidé avec Pierre Corvol de choisir comme sujet la naissance de la médecine scientifique. Pierre Corvol n'est pas un historien de la médecine, n'est pas non plus un philosophe, c'est un docteur. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques maladies dans le lycée. Il ne consulte pas ce soir, mais néanmoins, il a fait l'effort de réfléchir à l'histoire de sa discipline, dont il est un des plus notoire représentant en France. Et donc, il va nous parler de la naissance de la médecine scientifique et même un peu plus que de la naissance, disons, de son développement dans ces deux derniers siècles et des leçons qu'il croit pouvoir en tirer. Je vais donc donner la parole à Pierre Corvol, donc membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, qui va nous faire un petit panorama de la naissance de la médecine scientifique.
Très bien, mais écoutez, merci et merci d'être venu. Il y a des fois, on se dit qu'on aimerait bien retourner en Cagne. J'ai jamais été en Cagne, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais en fait, ça doit être vraiment sympa à écouter, en tout cas, toutes les conférences qui vous sont proposées. Je ne sais pas si celle-là de ce soir va vous passionner, mais au moins, vous avez déjà dû consulter un docteur et... C'est quand même un sujet important, donc après tout, pourquoi ne pas parler de la naissance, ou plutôt des naissances, comme le dit Jean Monteneau quand on en a discuté. Après tout, il y a eu plusieurs naissances, il y a eu des renaissances, et à l'heure actuelle, nous vivons, je ne dirais pas du tout un état de maturité de la médecine, encore un état d'adolescence, mais d'adolescence déjà relativement avancée. Alors, les trois logos que vous voyez correspondent aux trois affiliations que j'ai eues. Alors, je ne suis pas un politique, donc je n'ai pas cumulé en même temps d'être professeur au Collège de France, d'être responsable d'une unité de recherche de l'INSERM et aussi d'être médecin à l'hôpital Pompidou. En décalant les choses, on peut arriver à faire un bon travail et c'est ça que j'ai souhaité faire au cours de ma vie. Et c'est un petit peu ça aussi que je voudrais partager avec vous, c'est cette réflexion sur la médecine avec une question qui est, je dirais, plurimillénaire. Est-ce que la médecine est un art, une science, un art et une science? Une question vraiment, évidemment, fondamentale. Alors, on va essayer d'y répondre avec, non pas tellement de la théorie que de la pratique, en voyant un petit peu l'évolution des choses. Alors, avant, pour essayer de montrer qu'effectivement c'est une vieille question, je prends non pas les débats aristotéliciens ou autres, je prends volontairement l'exemple de Paracelse. Paracelse était un médecin suisse au début de la Renaissance qui était réellement, je dirais, hétérodoxe, qui a bousculé les choses et les idées, qui était un esprit très critique et violent, non conventionnel pour son époque, qui était un alchimiste, c'est-à-dire en fait un chimiste. Il me semble qu'il est intéressant de regarder Paracelse, qui n'est pas considéré comme un grand pape de la médecine, mais Paracelse avait une vision relativement clairvoyante en voulant contester ce qu'avaient enseigné les anciens pour essayer de réfléchir à ce qui pourrait arriver. Et notamment, comme il était chimiste, il a travaillé sur les plantes, il a notamment introduit la distillation. On estime que c'est un de ceux qui pourrait être considéré comme un père de la toxicologie. D'ailleurs, il dit que toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Et il dit aussi, seule la dose détermine ce qui n'est pas un poison. Ce qui est exactement le cas d'un médicament. Quand on dépasse une certaine dose, on passe dans un régime toxique du produit. Il dit aussi que le médecin, ne doit pas trop se vanter. Il a un maître au-dessus de lui et c'est le temps qui joue avec lui comme le chat et la souris. Tout à fait juste. Voilà. Alors, le deuxième grand homme, évidemment, qu'on peut pas oublier, d'autant plus que J'occupais jusqu'il y a 2 ans la chaire de médecine expérimentale, donc dans la lignée, si je puis dire, de Claude Bernard. Eh bien, c'est Claude Bernard. Alors, ce qui est intéressant, Claude Bernard décrit très bien, c'était un médecin, un scientifique, que conserver la santé et guérir les maladies, tel est le problème que la médecine a posé dès son origine et dont elle poursuit encore la solution scientifique. Alors, comment Claude Bernard voit-il, lui qui était... quand même, qui était un esprit extrêmement critique et réfléchi, et qu'on peut estimer comme un des pionniers aussi de la réflexion épistémologique en matière de médecine, eh bien, il dit que la médecine n'est ni un art, ni une science, c'est une profession. Moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, en enseignant en faculté de médecine, nous enseignons dans une faculté à visée professionnelle. On va voir un petit peu. Alors, je ne vous donne pas la dernière diapositive, sinon vous partiriez, mais on terminera par une réflexion de Canguilhem, justement, sur le statut épistémologique de la médecine, et puis nous verrons si vous êtes d'accord ou pas. Alors, donc, la question, c'est de savoir comment tout ceci s'est produit. Alors, on va aller assez rapidement sur la naissance de la médecine scientifique, c'est-à-dire... L'enfance de l'art, on peut vraiment dire que c'était un art. Il y a tout temps, à partir du moment où les hommes ont commencé à vivre, il y a d'autres hommes qui se sont intéressés à essayer de contrecarrer la maladie, la mort. Et au fond, l'histoire de la médecine, c'est l'histoire de l'humanité. C'est voir comment progressivement s'est construit une discipline qui a essayé de contrecarrer, entre guillemets, le destin. Alors au début, c'était plutôt magique, c'était plutôt charlatanesque, c'était très certainement une référence aux dieux. Il y a eu la période grecque que vous connaissez, avec notamment Hippocrate, qui au passage réunit philosophie et médecine, Aristote et Galien. Ce sont des grands noms, donc on ne va pas du tout s'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour les citer, car on ne peut pas ne pas les citer. Il faut savoir quand même qu'en même temps, c'est forgé, certes, une médecine d'observation, mais en même temps, une médecine, je dirais, de certitude, de dogmes et de théories qui ont, en quelque sorte, cadenassé la réflexion jusqu'à des gens comme Paracelse, que j'indiquais. Alors, c'est vrai que ça a été un moment important, et notamment un moment éthique. Je suis toujours heureux de voir, quand on fait passer une thèse en médecine, des étudiants en médecine qui récitent le serment d'Hippocrate, qui est un serment magnifique. Donc, d'emblée, l'aspect éthique des choses s'est incorporé dans la médecine. Bon, mais on va passer, comme je le dis, vite pour aller à la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, avec l'étude des corps. Alors, il faut d'abord saluer le fait que, quand on a commencé à disséquer les corps, c'était des expériences faites par des gens qui ont pris des risques monstrueux pour essayer de connaître. On parle souvent du risque que peut prendre un scientifique en explorant tel ou tel aspect de la science. Là, aller à Montfaucon récupérer des cadavres sur le gibet de Montfaucon comme le faisait Vézal, ça n'était pas rien. En même temps, c'était des gens qui étaient d'une précision, d'une méticulosité absolument remarquable. Et à l'heure actuelle, quand on étudie en première année de médecine l'anatomie, on se réfère à un certain nombre de parties du corps qui porte le nom de Vézal, de Malpighi, on va en voir un exemple, de Morgani. Alors je cite Harvey parce que je vais quand même parler de la médecine cardiovasculaire qui est mon domaine. Alors Harvey a écrit ce livre De motu cordis et sanguinis in animalibus en 1628. Alors là c'est au-delà même de l'anatomie, car Harvey en fait avait disséqué des daims pour voir comment la circulation sanguine s'établissait. On croyait à l'époque que le cœur pompait du sang et que ça allait irriguer à la manière d'une pluie qui irrigue les tissus. Mais l'idée d'une boucle circulatoire n'existait pas. Et Harvey a effectivement fait cette hypothèse que, compte tenu de la quantité de sang qui passait dans le cœur d'un daim en une journée, il était impossible que l'animal puisse vivre autrement que par un recyclage, en quelque sorte, de son propre sang. Alors, comme vous le savez, il y a eu une bagarre formidable, alors même que Harvey avait des arguments puissants, du temps de Molière, qui stigmatise remarquablement bien cette polémique. Du temps de Molière, il y avait les circulateurs, Harvey et quelques esprits éclairés, et les non-circulateurs, dont faisait partie le fameux Thomas Duafoirus, qui, pour se faire mousser devant sa belle dans le malade imaginaire, déclare « J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. » Donc c'est vous dire que cette bagarre allait jusque chez Molière dans les comiques. Bon, je cite Morgani, qui l'a aussi, voyez au passage, l'influence, je dirais, du sud de... évidemment, Harvey, vous me direz, il est anglais, c'est vrai. Mais Harvey a fait cette découverte à Padoue. Morgani était à Venise, Vézal était à Bologne. Donc, si vous voulez, il y a eu une influence italienne très importante et du sud de la France, avec Montpellier, sur ces débuts de la médecine, que l'on peut dire quand même déjà scientifique. Alors, pour vous montrer un exemple concret, c'est celui de Malpighi. Malpighi était un histologiste qui a vécu au XVIIe siècle. Alors là, vous avez trois images. Ça, c'est ce qu'a décrit Malpighi sur un modèle que nous utilisons toujours au laboratoire, qui est l'embryon de poulet. L'embryon de poulet, on casse un œuf, vous l'avez fait, on met ça dans une boîte de pétri, c'est une petite boîte dans laquelle il y a un milieu de culture, une boîte circulaire, et l'œuf est fécondé et il se développe pendant un certain temps. Ici, vous voyez une espèce de virgule, c'est le cœur, c'est, je veux dire, l'embryon proprement dit, et vous voyez la ramification vasculaire sur la membrane chorioallantoïdienne. Vous voyez que longtemps après, en utilisant l'encre de Chine, Hoyer a décrit le système lymphatique dans le même type de modèle, et que nous-mêmes au laboratoire, en utilisant d'autres techniques, nous retrouvons exactement ce qu'a décrit Malpighi, qui était entre autres la circulation capillaire. Alors, maintenant, on va réellement arriver à la naissance de la médecine scientifique avec, je dirais, deux grands axes. Le premier axe, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on va parler science, technique, etc., mais c'est la clinique reliée à l'anatomopathologie. Et là, on peut dire qu'il y a eu une influence importante à Paris, de la clinique, aussi d'ailleurs à Vienne, avec plusieurs personnalités. Je cite simplement l'exemple de François-Xavier Bichat, qui est mort très jeune, à 31 ans, de tuberculose, comme on mourait souvent à cette époque-là, qui était à la fois un médecin et un anatomopathologiste. C'est-à-dire qu'il essayait de faire des corrélations entre ce qu'il pouvait observer comme médecin en termes de clinique, donc d'écoute du malade, d'examen du malade, et d'autre part, quand le malade mourait, eh bien, il faisait une autopsie et il essayait d'établir un lien entre ce qu'il avait observé du vivant du malade et de ce qu'il observait en post-mortem. Et alors, il disait, voilà comment lui voyait, et c'était déjà très original à l'époque, le métier de médecin hospitalier. Il disait disséquer en anatomie, faire des expériences en physiologie, au passage il en a fait, avec notamment de la circulation croisée, suivre les malades et ouvrir des cadavres en médecine. Alors vous me direz que il ne suivait pas uniquement les malades pour pouvoir ouvrir ensuite les cadavres, mais en fait c'était certainement ça qu'il attendait chez certains de ses patients. C'est là une triple voie hors laquelle il ne peut y avoir d'attente anatomiste, de physiologiste ni de médecin. Alors, je cite la Bichat, mais je cite aussi Laennec, qui vous est sans doute plus connu encore. Laennec, c'est celui qui a découvert le stéthoscope et c'est un peu pareil. Il avait, grâce à un outil, pour la première fois, été bien au-delà de ce que l'oreille pouvait percevoir. C'est finalement, nous, on dirait de notre temps, on dirait que c'était un instrument médical, medical device, si on veut faire chic en anglais. Cet instrument permettait de repérer des cavernes tuberculeuses, permettait de repérer le pneumothorax, c'est-à-dire de l'air à la place d'un poumon. Et tout cela, il décrivait en même temps, en clinique, de façon extrêmement fine, ce qu'on entendait. Et ensuite, il pouvait vérifier et démembrer un certain nombre d'infections, comme par exemple la cirrhose, qu'on appelle encore la cirrhose de la Hennec, ou la péritonite tuberculeuse. Alors, ce qu'il a fait n'est pas passé inaperçu, notamment, alors je suis tombé par hasard sur un écrit de Chateaubriand qui m'a intéressé. Chateaubriand était un compatriote de la Hennec, ils étaient tous les deux bretons, la Hennec de Quimper. Et Chateaubriand disait, au moyen d'un tube appliqué aux parties extérieures du corps, notre savant compatriote breton, le docteur Laennec, est parvenu à reconnaître par la nature du bruit de la respiration la nature des affections du cœur et de la poitrine. Cette belle et grande découverte fera époque dans l'histoire de l'art. Alors, vous allez entendre ce que dit Chateaubriand, que je trouve assez formidable. Si l'on pouvait inventer une machine pour entendre ce qui se passe dans la conscience des hommes, cela serait bien utile au temps où nous vivons. Ça, c'est extraordinaire d'entendre un truc pareil. Alors, vous me dites, c'est complètement fou, mais en fait, pas du tout. Je dis simplement un mot. À l'heure actuelle, au Collège de France, avec notre collègue Stanislas Dehaene, qui explore l'activité cérébrale avec des techniques extrêmement fines d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on voit le cerveau s'agiter lorsque l'on lui demande de faire des opérations mentales. On le voit même s'activer avant même que l'opération soit résolue, oralement, si je puis dire. Donc voilà, c'est dans son génie, dit Chateaubriand, que le médecin doit trouver des remèdes. Et l'ouvrage du docteur Laennec prouve la justesse de cette observation. Donc, la découverte de Laennec, qui est mort lui aussi très jeune, n'était pas passée inaperçue. Alors, maintenant, nous allons réellement passer à ce que, justement, quand Guilhem appelle une révolution épistémologique en matière de médecine, qui est l'ouverture aux sciences, je dirais, aux sciences dures. Alors, finalement, si il y avait une date à retenir, ou en tout cas une période à retenir, c'est, je dirais, la période 1835-1830 jusqu'à 1900, à peu près. Car là, vous avez une avalanche de découvertes fondamentales qui vont avoir un retentissement absolument essentiel en médecine. Darwin publie en 1859 « De l'origine des espèces ». Magendie, qui précède Claude Bernard à la chaire de médecine au Collège de France, publie les leçons sur les phénomènes physiques de la vie. Alors, je m'arrête deux minutes sur Magendie parce que je trouve que beaucoup est dit sur Claude Bernard, mais beaucoup moins sur Magendie, que Claude Bernard a eu comme maître, à qui il a d'ailleurs fait un très grand éloge. Il le trouvait tout de même un peu brouillon, c'est sans doute vrai, mais Magendie était un vrai médecin et un vrai physiologiste. Il estimait que rien n'a été fait, que tout était à faire. Donc, il remettait tout à plat. Et il estimait que la médecine n'est pas une science, qu'en revanche, physique et chimie en sont. Donc, il mettait bien les choses où elles étaient, parce que la physique et la chimie naissaient. Et il disait qu'il faut prendre ces disciplines pour base, s'appuyer uniquement sur les faits, les expériences, et il faut considérer que les troubles fonctionnels sont finalement le résultat de lésions organiques et non pas l'inverse. Et il disait, éliminons les préjugés. Alors, on ne peut pas être plus clair et s'appuyer en même temps sur la physique et la chimie. Claude Bernard, j'y reviendrai, avec notamment, bien sûr, son introduction à la médecine expérimentale. Mendel découvre les lois de l'hérédité. Rudolf Virchow fonde une théorie très importante, peut-être... moment de dire un mot de ce grand berlinois médecin qui a montré qu'une cellule naît d'une cellule. C'est absolument essentiel. Peut-être pas suffisamment enseigné parfois ici en France. Et puis, bien sûr, la théorie microbienne, la négation de la génération spontanée par Pasteur, évidemment avec tout ce que ceci a impliqué ultérieurement. Alors, deux choses. D'une part, vous voyez, en quelque sorte, il y a une agrégation de découvertes fondamentales. La deuxième chose, c'est que ces gens-là ne se parlaient pas tellement entre eux. Bon, par exemple, l'exemple de Claude Bernard, il n'a jamais parlé d'évolution ni cité Darwin. Pourtant, ils sont contemporains. Il parle très peu de Virchow. Il connaît, bien sûr, il s'intéresse à l'histologie, mais il a une vue un peu curieuse sur la vie cellulaire. Pasteur et Claude Bernard, il y a eu des moments difficiles entre eux deux, même si Pasteur a respecté beaucoup Claude Bernard et vice-versa. Alors, quelques mots sur Claude Bernard, parce que il est quand même paradigmatique de l'évolution d'une médecine, c'est indiscutable. Claude Bernard décrit réellement la physiologie avec par rapport à la physiologie que nous faisons, qui est habituellement orientée sur un organe et une fonction. Lui a travaillé sur de nombreux organes, de nombreuses fonctions, dans de nombreux modèles. Moi, j'ai les cahiers de Claude Bernard au Collège de France. Vous trouvez des croquis de souris, d'œufs d'oursin, de cailles, de lapins, qui lui ont servi. Il dit d'ailleurs très bien qu'il faut utiliser l'animal dont on a besoin pour démontrer un point particulier. Il reste très connu, j'y reviendrai dans une seconde, sur la régulation de la glycémie. Il a montré que le pancréas, certes, était important, mais il a surtout montré que le foie était un organe de production du glucose, ce qui était absolument inconnu avant. Il a montré aussi l'importance de la régulation de la circulation par des nerfs vasomoteurs. Et alors, il a introduit un concept qui est, je crois, sans doute le concept le plus abstrait qu'on pouvait établir à cette époque-là, qui est le concept de milieu intérieur. C'est-à-dire qu'il a imaginé que, sur des arguments de réflexion, c'est pratiquement au milieu de sa carrière, que les tissus, les cellules, pour vivre, devaient pouvoir s'affranchir des variations du milieu extérieur. Et donc, notamment en se fondant sur la régulation du taux de glucose dans le sang, il a pensé que les cellules pouvaient, d'une certaine manière, exister en régulant leur métabolisme par l'intermédiaire d'un milieu intérieur qui était relativement constant. Ce concept a été tellement novateur qu'il n'a pas été repris avant les années 1915-1920. Même les élèves de Claude Bernard n'ont pas repris ça. Brunsecoir, d'Arsonval, qui lui ont succédé au Collège de France, mais des physiologistes autres qui travaillaient avec lui, Paul Bert et d'autres encore, passent ça sous silence. Le concept était trop avancé. Et Claude Bernard, c'est quand même tout à fait typique, je crois, d'un scientifique, a une phrase magnifique quelque part où il dit « Je m'imagine voyageant dans le sang avec une canne et explorant en quelque sorte mon milieu intérieur. » Ça me rappelle le film de Fleischner, si vous avez peut-être vu, qui est un film où on voit en micro encapsulé des voyageurs pour essayer de débloquer un caillot sanguin dans une carotide. Bien. Et puis, bien sûr, Claude Bernard, c'est l'introduction à la médecine expérimentale, mais je ne vais pas parler de ça ici, parce que vous connaissez certainement tout cela. C'était au programme du bac. Il n'y a pas encore très longtemps, je ne sais pas si ça persiste toujours, mais quel bel ouvrage où Claude Bernard décrit bien, je dirais, la méthode hypothético-déductive qu'il a parfaitement bien formalisée. Alors, il y a un mot qui est à la mode à l'heure actuelle partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle la médecine translationnelle. Si vous voulez demander de l'argent à un organisme de recherche ou à un hôpital, vous allez dire que vous faites de la médecine translationnelle. C'est-à-dire que je vais faire une translation entre une idée géniale que j'ai en recherche fondamentale et un intérêt formidable que je peux escompter pour mes patients et pour la collectivité en général. Eh bien, Claude Bernard est un exemple typique de médecine translationnelle. Il a fait deux thèses, une thèse de médecine d'abord, puis une thèse de science, qui est indiqué ici sur le diapositive, là, en 1853, où il démontre que le foie est un organe producteur de matière sucrée chez l'homme et chez les animaux. J'insiste là-dessus, Claude Bernard a naturellement beaucoup expérimenté chez l'animal. Mais en même temps, il a, et tout à fait à la fin de sa vie, un an ou deux avant la mort de Claude Bernard, il publie les leçons sur le diabète, qui est un petit bijou, dans lequel il y a à la fois de la physiologie et de la médecine. Il démembre les diabètes sévères, les diabètes légers, etc. Donc vraiment, voilà un bel exemple de ce qu'on appelle la médecine expérimentale translationnelle. Alors, il faut voir que tous ces gens que j'ai indiqués étaient des gens de laboratoire et accessoirement, je dirais, des médecins hospitaliers. Claude Bernard n'a pratiquement jamais exercé à l'hôpital, c'était réellement un médecin de laboratoire. Et pour vous le montrer, je prends justement des leçons sur le diabète, cette page, où il décrit comment mesurer la glycémie. Alors ça peut vous sembler trivial, mais c'est très important. On dépend complètement dans une discipline telle que la médecine de l'apport technologique. Claude Bernard était un homme extrêmement méthodique et qui savait doser la glycémie. Il avait travaillé avec des chimistes, il avait mis au point une méthode de mesure de ce qu'on appelait à l'époque des principes sucrés, le saccharose, avec cet instrument optique que vous voyez pour mesurer le sucre dans les urines. Donc, si vous voulez, on ne peut pas parler de progrès, je dirais, en termes de physiologie, de progrès conceptuel, sans avoir en même temps les mains, je dirais, à la paillasse et de développer les méthodes nécessaires pour pouvoir arriver à démontrer ce que l'on souhaite. Je dis ça parce que à l'heure actuelle, il y a indiscutablement un énorme éloignement pour la plupart des médecins, et notamment durant leur formation, entre le côté expérimental, la valeur relative d'une mesure, sa variabilité inter- et intra-sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez imaginer que Claude Bernard, lui, ne se faisait pas avoir. Et d'ailleurs, sa découverte procède précisément de cela. Claude Bernard, dans cette histoire du foie perfusé isolé, c'est-à-dire qu'il voulait savoir d'où venait le sucre que l'on trouvait dans le sang d'un chien. Donc à ce moment-là, il fait ses manips et il isole le foie de façon à ce que ce qui va sortir du foie dans les veines hépatiques provienne uniquement du foie et ne provienne pas du reste de l'organisme. Eh bien, quand il a fait ses mesures, il a repéré qu'il avait beau laver le foie avec de l'eau, eh bien, il restait toujours une certaine quantité de sucre. Et c'est ainsi qu'il a pu dire que, oui, il y avait une véritable production de sucre, de novo, par le foie. Il était sûr de ses mesures, et c'est pourquoi il a pu faire cette constatation fondamentale. Alors, pour terminer sur Claude Bernard, je dirais que Claude Bernard s'identifiait à la physiologie. Il disait que, finalement, la médecine, c'est la physiologie, tout est physiologie. Il disait même « Je suis la physiologie ». Il n'était pas délirant, mais je veux dire qu'il était très convaincu que tout passait par la physiologie, et il avait raison. Mais une physiologie qui était aussi appuyée sur des techniques de mesure de chimie telle que je vous l'ai indiqué. Alors, il enseignait à ses auditeurs du collège de façon à les initier au mouvement scientifique du moment. J'aime bien ce terme-là, qui est sans doute aussi notre rôle quand on y est. Il définissait le rôle du médecin hospitalier. Il disait que la médecine ne finit pas à l'hôpital, mais elle ne fait qu'y commencer. Le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le sens scientifique doit, en sortant de l'hôpital, aller dans son laboratoire, et c'est là qu'il cherchera, par des expériences sur les animaux, à se rendre compte de ce qu'il a observé chez ses malades. C'est ce que nous appelons, nous, bedside to bench, bench to bedside. Bref, ça c'est le truc à la mode américaine, mais ça veut dire que Et à mon avis, c'est le rôle du médecin hospitalier, universitaire, académique, c'est de se poser des questions à partir d'une observation clinique, d'essayer de la résoudre avec les moyens qu'il peut avoir actuellement dans son laboratoire, et puis retourner bien sûr à la clinique. Alors, Claude Bernard avait, je crois, des préciences. Il aurait été intéressant et passionnant de discuter avec lui. Une des préciences qu'il avait, c'était, je crois, une vision très évolutionniste. Il disait que finalement, rien n'est figé, que la vie, c'est la mort, et la vie, c'est la création. Sans doute voulait-il dire par là que, en fin de compte, il y a un renouvellement complet, régulier, du système, des organes, des tissus, il n'en était pas là. Aujourd'hui, on dirait des cellules souches. Et au fond, il va même jusqu'à dire on pourrait créer des animaux qui seront modifiés en fonction des besoins que l'on a. C'est exactement ce que nous faisons lorsque l'on fait ce qu'on appelle des, entre guillemets, manipulations génétiques. C'est-à-dire qu'on va transformer un animal de façon à avoir la preuve. Là, première fois que je me lance dans ce mot-là, qui est lourd, d'essayer d'établir un lien causal entre ce que l'on a comme hypothèse et de ce que l'on peut observer de façon à pouvoir établir effectivement une relation causale. On y reviendra. Alors, beaucoup pour Claude Bernard et simplement pour essayer de... On ne peut pas rentrer dans tout le détail, mais au fond, on peut dire que toutes ces naissances de la médecine sont rythmées par le progrès. Alors, on a vu le progrès clinique, on a vu le progrès anatomique. On a vu aussi que ceci va correspondre à une modification fondamentale de la perception du médecin par le patient et par la société. Le médecin autrefois écoutait, observait avec tous ses sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat même, etc. Tandis que va se substituer finalement le signe qui est donné par l'auscultation médiate, c'est-à-dire par l'intermédiaire du stéthoscope, ou bien par l'examen au laboratoire. Et finalement, il y a un déplacement de la médecine de consultation à une médecine de laboratoire, une médecine à domicile, à une médecine dans des services qui vont devenir de plus en plus spécialisés. Alors, ce que je voulais faire, c'est une petite introduction des sciences dures dans le vivant. Je ne voudrais pas tellement parler de la physique, la chimie, la biologie moléculaire, etc., mais des mathématiques et des statistiques, parce que ça, ceci, c'est un changement important avec, bien sûr, l'introduction du numérique. Et d'ailleurs, quand vous voyez maintenant finalement les termes de notre discipline, vous voyez bien toutes ces évolutions. On parle d'anatomopathologie, d'anatomophysiologie, de physiopathologie, de médecine et de pathologie cellulaire ou moléculaire, et même de médecine évolutionniste à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, la médecine s'est enrichie de toutes ces colonisations, en quelque sorte, des sciences dures. Et je voudrais parler un petit peu, là, d'une médecine qui est tout à fait passionnante, qui est la naissance de la médecine collective et de l'introduction des mathématiques, des statistiques, d'une manière générale, des sciences numériques dans la médecine. D'abord, c'est un grand changement qu'au XIXe siècle, puis au début du XXe, il y ait une médecine qui ne s'intéresse pas seulement à l'individu pris en tant qu'individu isolément, mais aussi à un individu qui fait partie d'une collectivité, d'une société. Et ceci a été rendu possible par les outils de recherche qu'ont été les mathématiques, les statistiques appliquées à la médecine, et aussi des études épidémiologiques, des essais thérapeutiques qui sont conduits dans des conditions rigoureuses et qu'on appelle contrôlées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la France, de nouveau, je dirais, a joué un rôle important, que les Américains reconnaissent qu'il n'est pas toujours le cas. Quand ils parlent de statistiques, d'épidémiologie, c'est l'influence de Laplace, de Charles-Alexandre Louis, qui, mathématiquement, numériquement, ont démontré je dirais de façon rigoureuse, par exemple, que l'intérêt de traiter de telle ou telle manière une épidémie de choléra. Alors, prenons l'exemple de l'épidémie de choléra parce que elle a sévi à Paris en 1832. Elle a fait à peu près 20 000 morts. Et cette épidémie a été, je dirais, numérisée en quelque sorte par Charles-Alexandre Louis, qui a regardé ce qui se passait en termes de mortalité. C'est facile de compter les morts. Là, les statisticiens ne risquent pas trop de se tromper. Et en fonction qu'ils aient reçu ou non préalablement une saignée. Et là, il a démoli l'idée qui prévalait que, quoi qu'on ait... il fallait saigner. Donc, il a démontré le danger de la saignée. Et il a deux ou trois études tout à fait typiques de ce type. Laplace a écrit un essai philosophique sur les probabilités qui est absolument superbe. Et il dit, il décrit exactement ce que c'est que l'essai contrôlé d'un médicament. Il dit, ainsi, pour reconnaître le meilleur traitement en usage dans la guérison d'une maladie, il suffit d'éprouver chacun d'eux sur un même nombre de malades, donc on va avoir des groupes à parier, en rendant toutes les circonstances parfaitement semblables. La supériorité du traitement le plus avantageux se manifestera de plus en plus à mesure que le nombre s'accroîtra, ça c'est sûr. C'est ce qu'on appelle la puissance statistique d'un essai, c'est-à-dire avoir suffisamment de malades pour avoir une probabilité de ne pas se tromper, n'est-ce pas ? Et le calcul fera connaître la probabilité correspondant de son avantage et même du rapport suivant lequel il est supérieur à un autre. C'est quand même formidable d'écrire ça. Simplement, le problème de Laplace et des essais contemporains, c'est qu'il n'y avait pas de thérapeutique en dehors de la saignée. Il n'y a pas vraiment de thérapeutique. La prochaine révolution, on va en parler, ça va être justement la thérapeutique. Mais l'outil a tout de suite été repéré par Charles-Alexandre Louis, qui était un médecin. Cette médecine collective, elle a évidemment beaucoup bénéficié des découvertes de Pasteur. Parce que là, il a été facile, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce serait trop simple, enfin trop simple, vous pouvez le comprendre très vite. Le fait d'avoir repéré qu'une maladie pouvait être liée à un germe donné, qu'en éliminant le germe, et notamment en prévenant son apparition avec la vaccination, eh bien, on avait là, je dirais, un rapport de causalité qui pouvait s'établir pour la première fois, avec, en quelque sorte, une agression extérieure, avec un phénomène observé, et avec une intervention avant même l'ère des antibiotiques. Ce qui fait que, effectivement, ceci a bénéficié à la société, avec... je dirais les campagnes de vaccination, les vaccinations génériennes, la vaccination antivariolique obligatoire, qui quand même, c'est la seule fois en médecine où on peut lever la tête en disant que c'est la seule maladie qu'on a éradiquée. La seule maladie au monde qu'on puisse dire qu'on a jamais guéri, c'est la variole. Enfin, il faut savoir que la variole, c'était une des premières causes, en tout cas, de mortalité à ces époques-là. Par exemple, il y a eu 14 000 morts de variole dans la seule année 1796 à Paris. Alors je garde 1796 parce que c'est là qu'a débuté la vaccination générienne. Donc si vous voulez, on pouvait ainsi avoir, je dirais, une certitude de l'effet de la vaccination et une certitude d'avoir éradiqué en 1977, l'OMS a dit « il n'y a plus de variole ». Bien, ceci a induit, et c'est intéressant sur le plan de la société, c'est un peu loin de la philosophie de la médecine, mais quand même, ceci a induit toute une réflexion à la fin du 19e et au début du 20e siècle sur l'hygiène. Et la France a été très rapide là-dessus, comme d'ailleurs aussi, il faut le reconnaître bien sûr, en Angleterre, parce que la vaccination vient d'Angleterre, en Allemagne et en Autriche. Il y a eu un conseil supérieur d'hygiène publique et de salubrité qui a été créé à Paris en 1802, donc c'est vraiment très précoce. Une loi relative à la protection de la santé publique un siècle après. Et tout ceci a abouti à indiscutablement des progrès indiscutables sur la régression de maladies infectieuses, notamment la tuberculose. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Ivan Illich, ça vous dit peut-être rien, mais Ivan Illich a écrit un livre qui s'appelle Némésis médical, qui démolit ce qu'il appelle, entre guillemets, l'entreprise médicale, c'est-à-dire notre affaire à nous, en disant que les progrès dont nous nous targuons sont finalement des progrès dus à des mesures d'hygiène et autres, beaucoup plus que à des progrès liés aux médicaments ou à l'efficacité des médecins. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était un moment important, je dirais, de débat et qui n'est pas complètement terminé. Il y a suite après Illich, Skrabanek. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire nous gagnons tous les 4 ans un an d'espérance de vie dans les pays, en tout cas occidentalisés. Que cette année d'espérance de vie que nous gagnons tous les 4 ans est due grosso modo à 50% à l'effet du système médical, pas uniquement les médicaments, mais toutes les mesures de prévention que peuvent véhiculer aussi les médecins et les auxiliaires médicaux. Le reste étant sans doute des meilleures conditions de vie de façon générale. Mais il faut quand même rester très modeste et savoir que quand on observe ceci, il faut se dire qu'il y a eu, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans cette augmentation de l'espérance de vie qui pose par ailleurs d'autres problèmes. Alors la médecine scientifique, je pense, et notamment lorsqu'on veut parler d'inférence et de causalité, elle repose beaucoup bien sûr sur la thérapeutique. Quand on a une thérapeutique très spécifique qui va donner un effet très spécifique, quand on arrête la thérapeutique, quand on revoit réapparaître l'affection, on a, je dirais, des éléments de preuve. Cette révolution thérapeutique, elle date des années 50, hein, grosso modo 45-50. Il y a eu un âge d'or qui vous est indiqué ici, voilà, les sulfamines, les antibiotiques, les médicaments que vous avez peut-être pu prendre. En fait, ce qui est intéressant pour nous de voir à l'heure actuelle, et moi je le vis, hein, c'est la révolution thérapeutique du vivant. Ça, c'est une véritable révolution, pas assez tardée, mais elle est récente. On peut à l'heure actuelle traiter des affections, y compris le cancer, par des anticorps qu'on administre. On peut traiter, en tout cas avec des protéines recombinantes, on peut espérer avoir progressivement une thérapie cellulaire et génique. Tout ceci est apparu et bouscule littéralement, je dirais, l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique traditionnelle qui faisait de la chimie et qui développait ses produits est à l'heure actuelle très désireuse de collaborer ou de racheter des petites entreprises, souvent créées par des universitaires et des chercheurs, qui vont apporter leur expérience dans le domaine du vivant. Alors, je voudrais, puisqu'on flirte avec la causalité, vous dire, après tout, allons-y, est-ce qu'il y a vraiment une médecine rationnelle? Est-ce qu'on peut parler de causalité en médecine? Est-ce qu'on a fait quelques progrès, étant donné qu'il n'y a pas de science sans détermination de la causalité? Bien. Eh bien, en discutant justement avec Jean Montenot, je me suis dit, mais après tout, nous avons d'abord l'essai thérapeutique randomisé, qui est une première manière de montrer cela. C'est-à-dire le placebo, même si c'est critiquable, c'est quand même une manière rigoureuse de démontrer l'efficacité d'un produit dans un groupe de patients. L'imputabilité des effets secondaires des médicaments. On n'en parle pas souvent, mais c'est quand même quelque chose qui est tout à fait typique d'une causalité. Vous avez un produit que vous... votre médecin vous administre, vous avez des boutons partout. Alors, vous dites c'est le médicament, il me l'a prescrit, mais le médecin peut et doit être sceptique. À ce moment-là, on arrête, les boutons disparaissent, et la seule manière de faire pour démontrer la responsabilité, c'est de vous redonner le médicament et d'attendre que de nouveau vous ayez des boutons. C'est ce qu'on appelle l'imputabilité des effets secondaires. En médecine, on parle de preuve de concept. Je vais vous dire en un mot de quoi il s'agit. On n'hésite pas. Et puis, on hésite encore moins en parlant de evidence-based medicine, qui est ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, la médecine fondée sur les faits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout cela est récent, notamment la médecine fondée sur les faits. Je vais vous en dire quelques mots. Et puis, un jour ou l'autre, on ira plus loin avec la médecine prédictive, la médecine personnalisée. Bien. Alors, la preuve de concept, en un mot, c'est simple. Vous avez ici un schéma qui vous montre la progression des connaissances pour commercialiser, pour mettre sur le marché un produit thérapeutique. Produit thérapeutique qui peut être une drogue chimique ou qui peut être un produit issu du vivant. Vous avez une recherche de base. Vous allez ensuite faire une étude chez l'animal, bien entendu, et aussi une étude de toxicologie. Et vous allez faire une preuve de concept chez l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez administrer le produit chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Pour ceux qui développent au laboratoire, on est en plein vallée de la mort parce qu'on a un produit qu'on a développé, on ne sait pas si ça va marcher. Mais donc, vous donnez le produit. Si ça marche, on passe ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire qu'on va faire des études à plus large échelle. La preuve de concept est faite sur des malades rigoureusement sélectionnés, volontaires, et à qui on va faire le maximum d'examens et qu'on va observer au mieux pendant un temps limité avec des critères très objectifs à la fin. Donc voilà ce qu'on appelle la preuve de concept. Et si ça ne marche pas, le produit est abandonné pour toujours. Si ça marche, il peut être développé ultérieurement. Alors, l'evidence-based medicine, ou la médecine fondée sur les preuves ou sur les faits, ça, c'est une médecine qui a été développée par les Canadiens à McMaster University of Canada, qui se veut être une nouvelle manière et d'enseigner et de pratiquer sur la médecine. C'est au fond l'utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données du moment de la recherche clinique dans la prise en charge d'un patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner au médecin le maximum d'informations bien digérées, bien réfléchies sur un domaine donné, de façon à pouvoir le guider en fonction des faits connus sur la meilleure stratégie à observer. Et ceci se comprend. On a une croissance exponentielle des informations, on a de nouvelles technologies qui arrivent, il y a des pratiques médicales qui changent régulièrement, il y a des risques liés aux soins, il y a des demandes des malades et il y a une pression financière. Donc comment on fait pour digérer tout ça? Aujourd'hui, le travail d'un généraliste est extrêmement compliqué et d'un spécialiste aussi. Il lui faut une aide. Donc l'idée, ça a été de créer des outils comme la Cochrane Library. Et en France, il y a un groupe qui s'intéresse à ça et qui repère les publications les plus fiables, les bases de connaissances, de façon à pouvoir créer des groupes de consensus auxquels pourront s'adresser par Internet les médecins afin de résoudre une question donnée. Et vous voyez, c'est vraiment une véritable organisation. 28 000 volontaires, 100 pays qui collaborent. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, j'imagine, mais qui sous-tend en quelque sorte, ou qui devrait sous-tendre la pratique. Au fond, on passe d'un paradigme classique, ancien, où la médecine est fondée sur une transmission passive de l'information. Le maître éduque l'élève. L'information est à digérer, je dirais, par l'élève. L'expérience personnelle, l'intuition du médecin, etc., prime. On passe de ce modèle-là à un modèle, je dirais, beaucoup plus scientifique, avec un accès à l'information, une lecture critique des articles, et Dieu sait s'il en paraît, vous ne pouvez pas imaginer la littérature médicale, et la prise en compte des résultats dans les décisions, avec une remise en cause permanente, bien entendu, de tout cela. Alors, au fond, il y a eu peut-être un excès dans cette evidence-based medicine. Quand il y a, un groupe qui établit finalement une proposition telle que celle-là, il y a toujours la possibilité d'avoir des extrémistes, des intégristes, si je puis dire, dans le domaine. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a en quelque sorte une rébellion d'un certain nombre de médecins en disant « mais on va trop loin ». On va même jusqu'à parler de niveau de preuve, c'est-à-dire que si vous avez des études qui ont été moyennement faites, on va avoir une preuve B. Si les études sont superbes, la preuve A, etc. Donc, si vous voulez, on est rentré dans une complication qui fait qu'il y a eu, je crois, une certaine rébellion qui est assez logique. Mais si j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, c'est parce que je crois que c'est intéressant de voir quand même le progrès qui peut être fait pour essayer de rationaliser l'acte médical qui s'inspire réellement d'une démarche, je dirais, scientifique. Alors, je vais prendre peut-être juste un cas concret qui peut vous amuser. Voilà, on voudrait savoir si perdre du poids, ça a un rôle sur la pression artérielle. On est obèse, on est hypertendu. Eh ben voilà, vous faites dans Cochrane, vous mettez vos critères, vous avez 18 études qui ont été sélectionnées, mais ils estiment qu'il n'y en a que 6 qui ont été rigoureusement contrôlées. Mais vous voyez qu'il n'y a que 361 patients correspondant à ces 3 études, ce qui est vraiment très peu. Et néanmoins, la conclusion qu'il vous propose dans l'état de l'art, et ça j'avais fait ça il y a déjà quelques années, c'est que perdre un peu de poids abaisse un peu, mais pas beaucoup, la pression artérielle. N'en déduisez pas qu'il ne fasse pas de perte de poids, c'est toujours très bon. Mais enfin, vous avez là un résultat que vous ne pouvez pas générer individuellement, que votre patron ne peut pas donner et qui va être suivi par des groupes d'experts qui vont vous indiquer dans des guidelines que le médecin devrait penser ceci, que ceci, que cela. Voilà, donc je passe là-dessus pour dire, en terminant ce sujet, que il y a eu donc quelques réserves et que, voilà, on a pu dire qu'il y avait quand même un potentiel réducteur de cette médecine et qu'on allait un petit peu trop loin. Néanmoins, je crois que c'était intéressant d'en discuter pour que vous soyez au courant que les médecins aussi, même dans leur pratique, parlent d'une médecine fondée sur les preuves. Alors, je voudrais terminer par un cas pratique qui est celui que j'ai travaillé pendant 40 ans, qui est l'hypertension artérielle, parce qu'il est assez emblématique de la réflexion médicale, parce qu'on va pouvoir revoir tout. C'est en quelque sorte une révision. Voilà, on va commencer par la mesure de la pression artérielle, qui a été la mesure de la pression artérielle. Elle date en fait de très très longtemps. Elle a été faite en 1733 par un botaniste qui s'intéressait à la montée de la sève dans les feuilles ou dans les arbres. Et donc, il a cannulé, si vous voulez, les capillaires en quelque sorte pour voir jusqu'où montait la sève. Puis un jour, il a eu l'idée de canuler une carotide de jument. Il a vu monter la pression artérielle. Il a vu d'ailleurs qu'elle bougeait comme ça. Ça correspond à la contraction et à la relaxation du corps. Et c'était en 1733. Il a fallu plus d'un siècle, pour qu'on recommence à mesurer la pression artérielle. De nouveau, d'ailleurs, par des méthodes sanglantes. Ici, vous voyez l'instrument de mesure de Marais, qui date de la fin du 19e. Vous voyez le pauvre chien à qui on prend la pression artérielle. Et le monsieur qui est là n'est pas non plus très fier parce que les mesures de l'époque étaient quand même relativement sanglantes et agressives. Donc, en fait, il y avait 3 fois rien qui était fait. Jusqu'au jour où on mesure la pression artérielle de façon non sanglante par un brassard. Et sans doute, comme médecine scolaire ou universitaire, vous avez pu avoir une mesure de la pression artérielle par le brassard du Rivarici. Et ça date d'un peu plus d'un siècle. C'est pas vieux. Là, on a une mesure. On va mesurer votre pression artérielle. Elle va avoir 2 chiffres qui correspondent à la contraction et à la relaxation du corps, la systolique et la diastolique. Alors, cette introduction de la mesure va bouleverser la manière dont on va voir l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, quand vous voyez cette publicité qui date des années 30 et 40, Le patient hypertendu se plaint de maux de tête et il va être soulagé par un placebo qui s'appelle le Tensol à l'époque. D'accord. C'est finalement une maladie bruyante. C'est ce que, d'ailleurs, appelait Foucault la grammaire des signes. Et on passe à ce que le Rich appelait le silence des organes, c'est-à-dire que on passe d'une médecine symptomatique de plainte où le malade va offrir au médecin son symptôme. D'ailleurs, dans notre jargon, on dit le malade présente ou se présente avec telle chose. Une curieuse terminologie, mais c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, là, il n'y a plus toute présentation. C'est le médecin qui va chercher, alors même que le malade, quelquefois, ne lui demande rien du tout, va chercher le niveau de la pression artérielle. Et donc, on passe à une médecine de chiffres. Alors, la médecine de chiffres, c'est très intéressant, notamment pour les assureurs. À l'époque, je parle des années 1910-1920, on n'avait pas beaucoup d'idées de la manière dont les maladies se développaient. On avait quelques schémas simples, en pensant que le vin, les femmes, le tabac pouvaient avoir un effet néfaste chez l'homme. Et que si on pouvait s'abstenir, je dirais pas de tout, mais de certains, ça pouvait être bénéfique. Et qu'on pouvait ainsi éviter le spectre de l'athérosclérose, tout ça au début du siècle dernier, où vous voyez un docteur en train d'expliquer à ses confrères l'artériosclérose, dont on ignorait absolument tout à l'époque, qui va attaquer notre patient. Eh bien, les premiers qui se sont vraiment intéressés à ça, maintenant qu'on a les chiffres de la pression artérielle qu'on peut mesurer, ce sont les assureurs. Et je trouve personnellement que ce serait intéressant d'avoir une thèse sur la médecine d'assurance durant pratiquement la moitié du XXe siècle, car les assureurs, pour des raisons purement mercantiles, se sont intéressés à dépister, si vous voulez, des caractéristiques de leurs assurés, de façon à pouvoir les charger d'une prime d'assurance plus ou moins élevée. Alors bien sûr, le sexe, l'âge était connu, c'est depuis l'Antiquité, en passage. Il y a une table d'Ulpien que j'ai repérée par l'intermédiaire d'un de mes collègues du collège, où on repère la mortalité en fonction d'un certain nombre de critères. Bien. Mais en dehors de cela, ce qui était intéressant pour l'assureur, c'était de rechercher des maladies obscures, c'est-à-dire en dehors du sexe et de l'âge, de façon, qui ne sont pas des maladies, mais enfin qui sont des facteurs de risque non évitables, malheureusement, rechercher donc des critères qui permettaient d'aller plus loin dans le diagnostic prévisionnel. Et donc, on a commencé à faire des analyses d'urine, des analyses sanguines, et on a commencé à établir des primes sur les risques, n'est-ce pas ? Et donc, une épidémiologie de sources privées est née à cette époque, et en 1905-1915, un médecin qui s'appelle Fischer, de la Mutual Life Insurance Company, a établi pour la première fois un lien entre le niveau de la pression artérielle en dehors de tout symptôme et, d'autre part, le risque cardiovasculaire. Alors, ceci était tout à fait intéressant puisque on pouvait, de cette façon-là, avoir au fond un marqueur précoce du risque vasculaire. Voilà la table qu'il a établie, qu'il a publiée ultérieurement en 1915, et qui a permis déjà pratiquement de fixer les chiffres de pression artérielle normale. Car quand on va au-delà de ces chiffres dits, entre guillemets, normaux, je reviendrai là-dessus, eh bien, on a un risque accru, soit de mortalité cardiovasculaire, soit de morbidité, c'est-à-dire de faire un accident non mortel, infarctus ou accident vasculaire cérébral. Donc on passe en quelque sorte d'une médecine du perçu à une médecine de l'inaperçu, avec progressivement, je dirais, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui ont été découverts, avec une étude qui était absolument, à mon avis, essentiel dans l'histoire de la médecine scientifique, qui est l'étude de Framingham. C'est une étude épidémiologique où, après la guerre de 45, le National Institute of Health, c'est-à-dire l'équivalent de l'INSERM en France, l'Institut de la Santé et de la Recherche Médicale, a décidé d'étudier sur une petite population, près de Boston, l'apparition de maladies cardiovasculaires ou la mort cardiovasculaire dans une petite communauté de 6 000 à 7 000 individus. Et il pensait faire cette étude pendant une génération. En fait, cette étude se continue. On est à la troisième génération. Et ça a permis de démontrer que non seulement l'hypertension, mais l'hypercholestérolémie, le tabagisme et beaucoup d'autres facteurs, mais en tout cas ces trois-là principalement, jouaient un rôle dans l'apparition des maladies cardiovasculaires. Et ceci a induit, dans les débuts des années 70, les premiers essais thérapeutiques pour démontrer, alors là, de façon formelle, que, en plus, si on fait régresser la pression artérielle, on a un effet bénéfique sur la diminution du risque de mort ou d'accident cardiovasculaire. Et les études qui ont été menées avec placebo, l'étude qui est indiquée ici, c'est une étude qui a été faite sur un très petit nombre de patients, avec des patients très hypertendus, car ça, c'est le chiffre de leur pression du bas, diastolique très, très élevé. Eh bien, on a arrêté prématurément l'essai à cause d'un excès de mortalité. Et à l'heure actuelle, on est dans ce qu'on appelle les méga-essais, c'est l'autre partie. Vous voyez, 33 000 patients suivis pendant quelquefois plus de 5 ans et qui permet de comparer les médicaments, etc. Donc vous voyez, on est arrivé à un degré de sophistication bien plus grand. Mais vous voyez, tout cela est récent. 70, enfin pour vous, ça semble très vieux, mais enfin pour moi, je débutais pratiquement ma médecine dans ce domaine-là, et ce sont des publications absolument marquantes. Ceci parce qu'on avait des médicaments. On est passé, si vous voulez, du médicament qui faisait tout sur tout à des médicaments très spécifiques. Je ne parle pas de celui-là qui, au passage, est mieux qu'un hypotenseur puisqu'il redresse les fonctions fléchissantes de la carotène. Je passe. Mais je passe aussi sur le fait que donc tous ces médicaments ont un effet sur le cardiovasculaire et ce que je vous disais, c'est-à-dire une augmentation de l'espérance de vie. Alors, je voudrais terminer un petit peu par, au fond, tout cela concerne ce qu'on appelle le patient. Mais qu'est-ce que c'est que le patient? Au sens strict du terme, c'est quelqu'un qui souffre. Mais je vous ai parlé de gens qui ne souffrent plus, puisqu'ils ne se tiennent plus la tête, on leur mesure la pression, et en fonction du risque qu'ils encourent, on décide de les traiter. Bien. Alors, intéressons-nous à la population générale. Alors, il y a deux possibilités, si vous mesurez la pression artérielle dans la population générale. Ce sont deux courbes théoriques. La première courbe, qui n'est pas grisée, c'est une distribution qu'on appelle gaussienne, c'est-à-dire une distribution normale. Et à ce moment-là, vous avez une distribution qu'on appelle unimodale. L'autre distribution, avec un épaulement en grisé, c'est une distribution bimodale, c'est-à-dire que, en fait, il y a un petit groupe de gens qui ont une pression artérielle élevée, et donc on va pouvoir les distinguer des autres qui ont une pression artérielle, entre guillemets, dite normale. Eh bien, en fin de compte, quand on regarde la distribution de la pression artérielle, et c'est vrai pour le cholestérol, et c'est vrai pour le sucre, on a non pas une distribution bimodale, mais unimodale. C'est-à-dire que on est un peu désemparé pour dire qui va être normal et qui va être pathologique. Là, vous avez des chiffres élevés de pression artérielle, là, vous avez des chiffres bas, mais il n'y a pas de distinction claire, il n'y a pas de seuil clair que l'on va introduire ici. Et donc, on se retrouve là, en fait, devant quelque chose qui est tout à fait passionnant. Je reviens à Claude Bernard qui disait « La santé et la maladie ne sont pas deux modes différents essentiellement, comme ont pu le croire les anciens médecins. Dans la réalité, dit-il, il n'y a que des différences de degré, l'exagération, la disproportion, la disharmonie, des phénomènes normaux constituent l'état maladif. Au fond, les gens qu'on va traiter, ce sont ceux qui se trouvent à droite dans la distribution, mais leur maladie, estime Claude Bernard, et c'est très vraisemblablement tout à fait correct, en dehors de quelques cas particuliers, correspondent à une anomalie de la régulation sans qu'il y ait, plus que cela. Si bien que, nos collègues anglais, qui sont quelquefois un peu provocateurs, disent que des termes comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'ostéoporose sont finalement des extrêmes de la distribution sur la droite et qu'on devrait éviter à la limite ces mots puisqu'ils mettent l'accent sur des maladies que nous créons, entre guillemets, puisque nous définissons à partir d'un certain moment donné que quelqu'un va être hypertendu. En fait, on devrait dire quelqu'un a une pression artérielle de temps, on va la faire diminuer parce qu'on a un effet bénéfique en faisant baisser la pression artérielle. Et donc, ce que disent nos collègues, et c'est une discussion qui est naturellement très importante en termes de population, c'est que on peut, en quelque sorte, aller imaginer qu'un certain nombre de maladies chroniques, que nous appelons des maladies chroniques, ne sont simplement que des effets du vieillissement progressif, et que le point le plus important, c'est de traiter, de voir si le traitement va être efficace. Alors là, d'autant plus cette notion-là que lorsque l'on regarde maintenant sur des études extrêmement importantes, sur là, vous voyez des études qui comportent 1 million de personnes suivies pendant 10 ans. En fait, c'est naturellement ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des données regroupées. Eh bien, on voit qu'il y a une relation forte entre la pression artérielle et la mortalité et qu'il n'y a pas d'effet seuil. C'est-à-dire, si vous voyez ici cette diapositive où vous avez les accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus du myocarde qui sont en fonction des tranches d'âge, eh bien, vous voyez que à 140, c'est-à-dire 14 cm de mercure de pression artérielle, eh bien, vous avez un risque plus bas de faire un accident que si vous avez 180, mais si vous regardez à 120, vous êtes encore plus protégé, vous avez un risque qui est moindre. Évidemment, plus votre âge s'accroît et plus vous risquez de faire quelque chose à chiffre égal de pression artérielle. Vous ne pouvez pas éviter cela, mais au moins vous pouvez éviter le surcroît, le surplus de risque que confère une élévation de la pression artérielle. Et donc, les médecins définissent des seuils d'intervention qui vont être fonction d'un certain nombre de paramètres. Ça devient là maintenant plus technique et je ne vais pas rentrer bien sûr dans le détail. Mais ce que je veux bien vous montrer ici, c'est que le normal et le pathologique sont bousculés. C'est-à-dire que on va parler à un patient, on va considérer ces chiffres de pression, de cholestérol, de sucre, chiffres dont il n'a aucune idée. J'ai jamais vu un malade qui se plaint de trop de cholestérol ou de pas assez de cholestérol, ça n'existe pas. Donc on va discuter avec lui, de façon difficile d'ailleurs, parce que c'est difficile à faire comprendre, que notre but c'est de ramener en quelque sorte le risque qu'il va avoir de développer une infection à un risque raisonnable compte tenu de médicaments bien tolérés qu'on peut lui proposer. Et on peut calculer ça, il y a des scores. Ici, un homme de 64 ans qui fume 20 cigarettes par jour depuis 20 ans, qui a un taux de cholestérol élevé, une pression artérielle élevée. Quand on fait un score sur les tables informatiques, on sait qu'il a une chance sur 4 de mourir dans les 10 ans d'un accident cardiovasculaire. Et devant lui, vous pouvez parfaitement modifier les paramètres et voir l'effet de l'arrêt du tabac, qui est d'ailleurs majeur, versus les autres mesures que l'on peut prendre. Alors, je termine en disant, on va pousser encore un peu plus loin le raisonnement. Puisque, finalement, tout le monde est malade. C'est le retour du docteur Knock, ce que je suis en train de vous raconter. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Merci d'en faire la réclame. Donc, c'est un peu le retour du docteur Knock. Tout le monde est malade. Et donc, on va traiter tous les patients. Mais c'est un peu ce que dit notre collègue anglais, qui n'est pas suivi par beaucoup de gens. Mais enfin, il dit, voilà, il y a un risque qui est continu. Il est difficile d'établir, comme je vous l'ai bien expliqué, un seuil particulier. Et donc, on sait qu'en baissant la pression, en baissant le cholestérol, on fait bien. On sait que les médicaments à l'heure actuelle qu'on peut prescrire sont des médicaments très bien tolérés, ils sont génériqués. On peut donner une combinaison de pilules contre le cholestérol, contre la tension, à moins d'un euro par mois, je dis bien à moins d'un euro par mois, les pays en voie de développement meurent en premier de maladies cardiovasculaires et non pas d'infections, contrairement à ce que les gens croient habituellement. Donc c'est une priorité. Eh bien, pourquoi ne pas traiter tout le monde à partir de 55 ans avec cette fameuse polypille, une pilule qui combine donc plusieurs médicaments miracles. On s'est discuté, etc. Mais, si vous voulez, c'est le bout du raisonnement. Alors, voilà le bout du raisonnement. Bon, je passe sur les épidémies qui sont très intéressantes. Pour terminer, quand même, un tout petit mot sur un texte de Canguilhem que m'a fait repérer Jean Montenot, publié dans les études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie. Alors, c'est intéressant de voir que Canguilhem dit que la médecine est parvenue à l'état de science, et qu'elle est parvenue à l'état de science au moment de la bactériologie. Je n'ai pas beaucoup détaillé cela, mais on peut en discuter, notamment avec les épidémies actuelles. Il dit que la preuve de la scientificité d'une pratique, c'est qu'elle fournit un modèle de solution et qu'elle déclenche une contagion d'efficacité. Je trouve ça joli, juste après justement le fait que la bactériologie, la microbiologie aient beaucoup fait progresser la médecine dans son état scientifique. Et il dit que c'est une science appliquée. Alors il définit le mot appliqué, il dit c'est pas très glorieux d'être science appliquée, mais il fait bien le distinguo entre application des sciences et sciences appliquées. Et je crois que c'est important, en disant que il ne faut pas faire de confusion. Une science appliquée, comme on peut le dire de la médecine, conserve la rigueur théorique des connaissances qu'elle emprunte pour une meilleure réalisation de son projet thérapeutique. Effectivement, je pense que les médecins actuellement sont rigoureux, ils appliquent à cela. Et je pense qu'en plus, ce que peut-être pas ne développe peut-être pas Canguilhem, parce que c'était peut-être pas encore tellement le point, c'est que la médecine génère ou promeut en tout cas d'autres applications de sciences. C'est-à-dire que la médecine force en quelque sorte, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, à aller de l'avant. Et alors, il dit en même temps, c'est une somme évolutive de sciences appliquées. Je pense que le mot évolutif est tout à fait vrai. On l'a vu depuis le 19e, fin du 19e, à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est une science en mouvement. On n'est plus dans le bégaiement d'un enfant, c'est vrai. On est, je crois, dans l'adolescence. En tout cas, je crois que c'est un beau statut que lui propose Canguilhem, qui dit que c'est la première ambition pour la médecine de devenir une science appliquée. Et il indique que la recherche d'efficacité en thérapeutique est finalement l'un des points qui a permis de progresser. Il dit aussi, je crois que c'est tout à fait intéressant, qu'on met en parenthèse parfois le malade, qui est habituellement le premier intéressé par la médecine, mais que d'avoir mis le malade entre parenthèses permet à la médecine sa conversion en sciences appliquées, où l'accent est désormais mis sur la science. Je crois que je vous l'ai montré, il y a eu des, notamment lorsqu'on a parlé l'introduction des mathématiques, de médecine collective, et de tout ce que je viens de vous indiquer sur la population en général. On met le patient, je dirais, comme un des éléments de la réflexion, mais il n'est plus toujours au centre, même si, et c'est tout l'intérêt d'être médecin, quand vous avez un malade en face de lui, je peux vous garantir une chose, même si vous avez un universitaire, que vous passez une heure à lui expliquer qu'on ne va pas parler d'hypertension artérielle chez lui, mais de chiffres élevés qu'on va réduire, à la fin à la consultation, de la consultation, il dit, mais docteur, mais je suis hypertendu ou non ? Voilà. Donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Alors je vais peut-être poser la première question. Oui, j'étais assez intéressé par ce que tu appelles le concept de milieu intérieur et le fait qu'un concept novateur est une influence qui n'est pas immédiate. Est-ce que tu pourrais revenir à la fois sur le concept lui-même et dire s'il y a d'autres exemples de ce type et si tu as une explication pour je dirais, le retard dans l'efficience de ce concept, puisque c'est la médecine.
Il me semble que le retard est lié au fait que Claude Bernard a une intuition, là je crois réellement. Voilà, pardon. Claude Bernard a une intuition super, mais pour parler et aller plus loin dans l'histoire du concept, il faut mesurer un certain nombre de paramètres. Donc il mesurait la glycémie à l'époque, mais la notion d'hormone est apparue 15 ans plus tard. Et ceux qui ont repris réellement l'idée du concept, comme Gannon, dans les années 1910-1915, commençaient à avoir à leur disposition la notion de produits fabriqués par l'organisme, les hormones, qui pouvaient réguler à distance les cellules, et que, en quelque sorte, on pouvait dire qu'effectivement, il y avait une régulation. Si on faisait bouger dans un sens, on arrivait à avoir un retour à l'état antérieur. Toute chose que Claude Bernard ne pouvait pas mesurer, il n'avait à sa disposition que la mesure finalement des électrolytes, c'était difficile, la mesure du potassium était déjà un exploit, plus tardif d'ailleurs, et la glycémie qui était horriblement difficile aussi à mesurer. Donc je crois qu'il a eu cette idée que les tissus baignaient dans un milieu qui devait être stable pour pouvoir s'affranchir, par exemple, de l'alimentation. À un certain moment, je crois que là, il a formulé ça parce qu'à un moment donné, on pensait que les graisses, le sucre, dans le sang, provenaient directement de l'alimentation. Il faut voir que Claude Bernard, il a quand même fait il a marqué, entre guillemets, les lipides des graisses et montré qu'il y avait... je dirais, des graisses dans le sang qui n'étaient pas marquées. C'est autrement dit, il y avait tout un métabolisme intermédiaire et il a notamment impliqué le pancréas et l'intestin. Mais au-delà de ça, c'était difficile. Donc, je crois que c'est vraiment un concept qui a marqué tous les esprits. C'est de Claude Bernard, le milieu intérieur s'écrit en français dans les publications américaines. Quand tu fais sur PubMed, enfin la grande banque de données, le milieu intérieur, même à l'heure actuelle, il y a 4000 occurrences. Alors je ne vois pas d'autres concepts aussi... C'est presque un concept théorique. Hein. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que ça allait de pair quand même avec des idées que le sang reflétait la mère originelle. L'idée était qu'il y a eu des mesures un peu plus tardives que, en fin de compte, la cellule... La cellule telle que nous la connaissons, elle avait bâti une membrane pour pouvoir s'isoler de la mère, finalement le milieu intérieur représentait cette mère originelle en quelque sorte, et que la cellule pouvait communiquer avec elle d'une certaine manière, de pouvoir s'affranchir là encore relativement du milieu environnant. Il y a eu toute une idée là qui a même abouti d'ailleurs à des propositions de thérapeutiques d'eau salée, de mer, par certains médecins dans certaines affections au début du XXe.
Est-ce qu'il y a une question de...
Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à propos du retour du docteur Knock. Donc, malheureusement, je n'ai pas lu votre ouvrage.
C'est pas là pour ça. Hein.
Mais je trouvais ça intéressant parce que... je voulais savoir quel était votre avis, justement, parce que c'était pas très clair. Est-ce que vous pensez que tout le monde est malade? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde... Enfin, du moins, ceux pour lesquels les chiffres ne sont pas tout à fait clairs, dans le sens où ils n'ont pas des pathologies, je dirais, au sens vraiment strict. Quand, par exemple, dans le cas de l'hypertension... est-ce qu'on parle vraiment de patients ou est-ce qu'on cherche au maximum à préserver la santé des gens?
Votre question est cruciale. Mais je vais tout vous dire. Quand j'ai commencé avec mon ami Nicolas Pesselvinet à écrire ce truc-là, on est parti avec une idée très claire qui était de démolir l'excès knockien, si je puis dire, de la médecine, de traiter des malades qui s'ignorent. Hein. Finalement, c'était ça. Puis progressivement, en analysant la littérature, en voyant le cheminement des pensées, etc., je dois dire, c'est pour ça peut-être que je suis quelquefois un petit peu limite, nous sommes dit, mais finalement, Knock, alors là, évidemment, c'est l'exagération, hein, que la manière dont il a fait ça. Mais finalement, je pense que il y a du vrai. Je veux dire par là, toutes les maladies chroniques dégénératives sont des maladies subtiles que l'on peut, quand on peut les quantifier comme la pression artérielle, le cholestérol, par exemple, que l'on peut, je dirais, prévenir avec des mesures qui sont finalement, comme vous l'avez vu, vous l'avez senti, très, très modestes. Alors, le débat est complètement ouvert, hein, parce que vous pouvez dire, je ne vais pas rentrer là aussi dans des explications techniques, vous pouvez dire, oui, mais il y a d'autres facteurs, on ne va pas en plus rajouter cela à d'autres types de traitements que les gens peuvent recevoir. Mais très vite se pose la question de l'économie. C'est-à-dire que tout ça, moi je vous ai donné moins d'un euro pour les pays en voie de développement. Mais les pays développés, eux, ils vont vous proposer des produits beaucoup plus chers. Et donc, les discussions se font avec les économistes de la santé pour dire, au-delà d'un certain risque, nous ne remboursons plus. C'est ce qui se passe en Angleterre. L'exemple que je vous ai pris n'est pas un exemple au hasard. L'exemple en Angleterre, on traiterait effectivement avec un médicament hypocholestérolémiant, une statine, quelqu'un qui a un cholestérol élevé qui risque de faire un accident vasculaire cérébral avec une probabilité de 1 sur 4 dans les 10 ans. Mais vous pouvez penser, vous, que votre vie vaut aussi la peine d'être regardée si vous avez une chance sur 20 de faire un accident. Alors après, c'est vraiment... Comment appelle-t-on ça? Je ne sais pas. C'est plus un patient, évidemment. C'est une personne qui a une chance très modeste de faire un accident cardiovasculaire que la communauté ne va pas vouloir rembourser parce qu'à ce moment-là, elle ne pourra pas traiter des gens qui vont avoir une épidémie, enfin qui vont avoir la grippe aviaire, par exemple, c'est très coûteux, ou un cancer particulièrement coûteux, et ça va rester à la disposition du patient, enfin de la personne, de décider elle-même si elle va ou non se traiter. Mais il faut intégrer l'idée que, à ce moment-là, vous allez vous traiter avec une probabilité de vous traiter pendant très longtemps pour quelque chose qui risque de pas du tout arriver, pour lequel vous ne voyez pas le bénéfice. En fin de compte, il va vous coûter quand même assez cher. Donc c'est difficile.
Oui, en fait, je sais pas si... Enfin, ma question n'était pas très claire. Mais c'est vrai que vous avez un point de vue très particulier qui est celui du médecin. Mais enfin, vous proposez qu'on traite tout le monde à partir de 55 ans avec un même traitement pour réduire les risques, si j'ai bien compris. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on n'insiste peut-être pas assez auprès des médecins qu'on forme et même en général dans la société sur le préventif, en fait, avant même 55 ans, sur les bonnes manières de vivre justement pour prévenir ce genre de risque. Parce que par exemple, vous avez un patient de 20 ans, jamais vous allez lui dire vous avez un risque passé 55 ans d'avoir un accident vasculaire cérébral, comment vivez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de la prévention aujourd'hui en France?
C'est un vrai grand problème. Regardez le tabagisme. Parce que finalement, on parle de l'attention, mais si on parle du tabagisme chez le sujet jeune, c'est une catastrophe. Et faire une campagne anti-tabac ici au lycée Jean Zay, je ne sais pas très bien combien de gens qui viendraient, qui seraient sensibles aux arguments, parce que c'est le problème du temps. Le temps du médecin n'est pas le temps du malade, le temps du jeune n'est pas le temps du médecin, le temps du pauvre qui risque quelque chose, même à court terme, n'est pas le temps du riche qui risque peu à long terme. Donc si vous voulez faire comprendre tout ça, c'est très difficile, parce que on rentre là dans un système de pensée qui est plus complexe que simplement la démonstration avec des courbes telles que j'ai pu vous le montrer. C'est la première chose, le tabac. 70 000 morts par an en France, que ce soit le cancer ou que ce soit les problèmes cardiovasculaires. Voilà, la première chose à faire, c'est pas l'obésité, hein, c'est clair, c'est pas de faire du sport, c'est de faire une campagne anti-tabac. Bon, voilà, mais vous savez la difficulté, enfin, vous l'imaginez bien.
Vous avez beaucoup insisté sur l'apport des sciences du vivant à la médecine. et notamment au XIXe siècle, avec la grande figure de Claude Bernard, mais aussi de quelques autres. Est-ce que vous pensez que la relation se fait dans les deux sens ? C'est-à-dire que la médecine apporte aussi beaucoup aux sciences du vivant. Et je me demande, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de l'état actuel de l'immunologie dans son rapport à la médecine, dans la mesure où les questions de l'immunité commencent par la vaccination générienne, puis évolue, passe par les travaux de Pasteur, et qu'aujourd'hui l'immunologie est dans les sciences du vivant, je crois, d'après mon information, presque une reformulation complète de beaucoup de choses, le rapport entre le soi-même d'un corps et l'autre, à tel point qu'on a pu parler du dernier langage de la médecine à propos de l'immunologie. Est-ce que sur ce point-là, vous envisagez des rapports, je dirais, bilatéraux entre médecine et sciences du vivant ?
Oui, vous avez absolument raison. Je pense que l'exemple de l'immunologie, enfin le cas de l'immunologie, était absolument typique. Les découvertes qui ont pu être faites sur l'immunité acquise, l'immunité innée, les modulations de l'immunité acquise et de l'immunité innée viennent de gens qui parlaient un double langage, en fin de compte. Un langage de médecin et un langage, bien sûr, de biologiste, mais aussi de modélisateur. Là encore, on a affaire à, je dirais, une discipline qui est multifactorielle plus que ce que les gens le croient, enfin multidisciplinaire, pardon, plus que ce que les gens croient. Et une médecine qui a bénéficié, à mon avis, comme souvent en médecine, de l'inattendu. Il faut voir que le produit qui a fait démarrer les greffes, c'est-à-dire la tolérance de l'immunité, c'est un produit qui a été découvert par un chercheur de Sandoz qui travaillait dans son coin, à la limite contre sa hiérarchie, qui a permis ensuite de faire des progrès très fondamentaux dans le vivant pour essayer de comprendre le mécanisme d'action de la cyclosporine, qui a permis, finalement, ça débouche sur le prix Nobel de Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine, alors qu'il n'a jamais que travaillé sur la mouche. Simplement, il y a une immunité chez la drosophile qui n'aurait jamais été sans doute étudiée avec autant de détails s'il n'y avait pas eu des questions médicales qui aient poussé en quelque sorte les recherches dans ce domaine. Donc, je crois qu'il y a un aller-retour qui se fait très régulièrement et qui se manifeste par le nombre de médecins et de scientifiques qui ont une double culture. Pour moi, c'est essentiel. Je regrette qu'à l'heure actuelle, à l'INSERM, par exemple, il y ait très peu de recrutement de médecins, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y avait à peu près 25% de médecins qui faisaient une carrière à l'INSERM, qui rentraient en tout cas à l'INSERM. À l'heure actuelle, il n'y en a presque plus. Ce qui ne veut pas dire que dans nos laboratoires, nous n'ayons pas de médecins qui passent beaucoup de temps à la paillasse plus qu'ailleurs, mais cette double culture est essentielle. Il y a un autre domaine où je crois il va y avoir une fécondation croisée entre problèmes médicaux et avancées scientifiques au sens lourd du terme, c'est naturellement les neurosciences. Dans les neurosciences, les choses vont aller très vite, elles ont déjà été très vite. L'imagerie cérébrale a amené les gens qui avaient découvert les principes fondamentaux de la résonance magnétique à mettre au point les techniques qu'il fallait pour pouvoir explorer le cerveau. Et c'est continuel, je dirais. On va de plus en plus loin. Donc je pense que là aussi, on a des exemples d'interaction très fortes.
Moi, j'aurais peut-être posé une question sur cette médecine de réseau, finalement, qui est cette banque de données. Finalement, il n'y a plus tellement d'hiérarchie, il y a de la statistique. Est-ce qu'on est obligé de
constituer, si j'ose dire, des garde-fous avec des systèmes critiques qui permettent d'évaluer les degrés de fiabilité des informations. Est-ce que le savoir médical peut garder, est-ce qu'un médecin peut garder une vue d'ensemble sur le savoir médical alors qu'il est noyé, je pensais au titre d'un film de Greenaway, Drawn by Numbers, hein, noyé, coulé par les nombres.
C'est pour ça que j'aime bien le mot somme. Au fond, on ne l'a pas commenté. Moi, je dirais que c'est l'intégrale. Finalement, c'est ça, j'aime bien ce truc-là de Pérec. Au passage, je viens d'appuyer dessus sans le faire exprès. Mais c'est l'art du puzzle. C'est l'introduction à la vie mode d'emploi dans laquelle nous ne sommes que capables de rabâcher une pièce avec une autre pièce. On est très heureux, mais il faut attendre la troisième pour que les choses commencent à être intégré. Donc c'est ça le médecin. On n'est pas plus haut que capable de pouvoir mettre une pièce à côté d'une autre. Mais c'est le challenge majeur, ça, essayer d'intégrer l'ensemble, qui fait que à chaque époque, le médecin, certains médecins ont critiqué les scientifiques médecins en disant mais vous vous intéressez que de façon extrêmement étroite à quelque chose qui est certes peut-être important, mais vous n'avez pas de vue d'ensemble. Et à l'inverse, les médecins scientifiques disent vous savez tout sur rien, vous avez rien sur tout plus exactement, et vous n'êtes pas capable de pouvoir rentrer dans les thèmes. Mais je pense que c'est pour ça que McMaster et je voulais vous parler d'evidence-based medicine, parce que c'est quand même une réflexion à tentative d'intégrer de façon ordonnée les connaissances. Moi, tu m'aurais demandé, alors l'obésité, ça fait quoi sur la tension? Je t'aurais dit n'importe quoi. Personne ne peut répondre à une telle question. Il faudrait que d'ailleurs je la repose et voir si on a une meilleure réponse que celle que j'ai indiquée. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les banques de données vont être absolument majeures pour pouvoir, d'un côté, avoir des documents statistiquement fiables. Et je crois, et ça va être l'autre challenge, que l'individualisation de la médecine, ça passera aussi par les études de DNA, de choses comme ça. C'est quand même vrai. Dans le cancer, je suis très méfiant, mais dans le cancer, on dénombre un nombre de cancers qu'on n'avait pas dénombré avant, qui est le cancer de monsieur un tel et pas de monsieur autre, parce que on a des données de génétique sur sa tumeur. Voilà. Donc le médecin va être amené à faire des grands écarts réguliers.
Alors, tu parles du docteur Knock, ta position est un peu ambiguë à l'égard du docteur Knock. Il y a des aspects qui te sont sympathiques, d'autres moins.
Oui, oui.
C'est l'accès à ces informations qui semble facilité, bien sûr, par le net. Est-ce qu'il est aussi facile que tu l'as présenté, ou est-ce que c'est très accessible, ou est-ce que c'est commercialisé?
Absolument. Tout le monde peut taper Cochrane. Ouais. Et d'ailleurs, le dialogue avec le malade est complètement changé. Parce que le malade, sur une maladie rare, je peux te dire que le malade en sait mille fois plus que toi. Il est très motivé, il lit, il interroge, il discute, et il a accès à toutes ces informations.
Il a envie de comprendre.
Mais là, pas tous. Oui. Il y a des gens, quand leur voiture tombe en panne, apportent la voiture au garagiste et règlent la facture. Il y a d'autres qui restent à côté pour savoir exactement ce qui s'est passé.
Savoir si le garagiste ne lui présente pas une facture.
Oui, oui, qui n'a pas de rapport avec la panne en question.
Bien, est-ce que quelqu'un a peut-être une dernière question à poser? Oui.
Vous avez évoqué les vaccins et les industries pharmaceutiques. Moi, j'ai un vrai problème avec les industries pharmaceutiques parce que j'ai l'impression justement qu'elles prennent le monopole, et c'est aussi lié au vaccin. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes, c'est-à-dire que les vaccins, au lieu de réduire certaines maladies comme, je sais pas, le vaccin de la grippe par exemple, ont visiblement tendance à en développer d'autres. Et il y a aussi le fait qu'on en distribue en masse très importante. J'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu.
Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a le vaccin, on aimerait bien avoir vaccin anti-Ebola. Vous êtes d'accord? Parce que pour les populations concernées, c'est la mort pratiquement une chance sur deux. Hein. Donc,
il y a un problème justement avec l'Ebola. Est-ce que c'est pas une maladie qui a été créée justement par ces grandes firmes pharmaceutiques?
Ah non, alors là, ça non, 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 on peut suivre. Alors là, on a une traçabilité. Je tiens bien à dire ça. Une traçabilité, c'est-à-dire que quand on a un virus qui arrive comme cela, qui a été découvert d'ailleurs il y a une dizaine d'années par un de mes collègues que je connais bien, Peter Piot, qui travaille sur les SIDA par ailleurs, c'est un virus qui a muté à partir de réservoirs animaux, la chauve-souris. Ça ne pouvait pas éviter. La nature fait qu'il y a des mutations. D'ailleurs, dans la grippe aviaire, c'est pareil. Vous avez des mutations. Les virus sont des éléments extrêmement, des organismes extrêmement instables et qui mutent. Voilà, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui peuvent être toxiques et d'autres qui ne le sont pas. On ne sait pas pourquoi l'Ebola entraîne ces hémorragies et la mort aussi rapidement. Mais dans un cas comme ça, si on avait un vaccin anti-Ebola, vous pourriez faire disparaître la maladie en l'espace de quelques semaines ou quelques mois au maximum, avec les mesures qu'on sait prendre. Donc là, alors créer une maladie, là c'est pas possible. Les seules maladies que nous avons créées, on crée des maladies. Mais je vais vous dire lesquelles. C'est pas celle-là. Malheureusement, c'est une maladie pire. C'est la démence. Parce que c'est bien gentil, vous m'avez pas interrogé, vous me dites ben, bravo docteur Corvol, vous êtes de ceux qui a traité l'hypertension efficacement, machin et tout. Bon, ben, d'accord, mais enfin, bien falloir, enfin quand même, on meurt que je sache en moyenne en France à 78-82 suivant qu'on est un homme ou une femme, grosso modo, un peu plus tardivement. Mais on meurt de quoi? Mais on meurt dans des de quoi? De beaucoup de choses, de cardiovasculaires, de cancer, mais on meurt surtout avec des problèmes cognitifs. Parce que tous les gens à qui on a évité un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie, un infarctus ou une artérie des membres inférieurs, progressivement, malheureusement, là-haut, ça ne suit pas. Donc, oui, nous avons créé des maladies. Et ça, c'est absolument net qu'il y a ce qu'on appelle une épidémie, entre guillemets, d'Alzheimer et de maladies liées à cela. Donc, si vous voulez dire qu'il y a quand même un problème et que, justement, le corps médical devrait regarder de près ce qu'il fait, c'est vrai. C'est récent, puisque, comme je vous l'ai dit, grosso modo, les progrès datent d'un quart de siècle, pas plus. Mais nous sommes confrontés à cela. Ça, c'est vrai. Alors, les vaccins, maintenant, plus personne se vaccine, pratiquement. Il y a plus la vaccination obligatoire.
Il y a quand même beaucoup de campagnes de vaccination, notamment dans les hôpitaux, où on force parfois, dans certains hôpitaux, le personnel à se vacciner.
Alors, on force le personnel à se vacciner contre l'hépatite B, quand ils ont affaire à, notamment, il y a plusieurs sortes d'hépatite, c'est la jaunisse. L'hépatite B, c'est une maladie qui peut entraîner la mort. La vaccination contre l'hépatite B est une vaccination qui permet d'éviter pour le personnel infirmier qui a manipulé des tubes de sang et qui peut voilà toujours être exposé à l'hépatite de cette façon-là, qui permet de l'éviter. Ça a été une vaccination prouvée comme efficace dans les pays anglo-saxons, notamment. En France, il a suffi d'une maladie ou de quelques maladies coïncidentes avec, mais sans qu'on ait de la preuve, avec la vaccination pour qu'il y ait effectivement des campagnes qui fait que la vaccination contre l'hépatite B qui avait été proposée comme obligatoire ne le soit pas. Elle ne l'est pas. Elle est néanmoins super recommandée au personnel infirmier qui habituellement le fait. Mais c'est très difficile. L'imputabilité est très difficile, comme vous pouvez le comprendre. Mais le tribunal, la Cour de cassation, je crois, pas cassation, je sais pas, le tribunal administratif, qui a décidé de rembourser à très haut niveau une patiente qui avait développé une sclérose en plaques, alors qu'elle avait reçu un vaccin anti-papillomavirus, pour prévenir le cancer du col, a pris une responsabilité extrêmement lourde. Car les preuves d'imputabilité, parlons de preuves, la Cour ne les avait pas. On les a eues pour le médiateur. Et on les avait avant. Ça, c'est autre chose. Mais donc, l'imputabilité était établie. C'est vraiment très important, la notion de preuve, ici.
Est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre les grandes entreprises pharmaceutiques et la notion de pouvoir ?
Ah ben oui, ça c'est sûr que l'industrie pharmaceutique a un pouvoir considérable. Il y a toute une histoire derrière cela, c'est vrai. Hein, on va pas vous mentir.
Quel pouvoir vous avez, vous, les médecins, par rapport à eux ?
Je dirais que d'abord, les médecins n'ont pas beaucoup de pouvoir dans la mesure où ils ne peuvent qu'analyser les choses et se tenir bien informés de l'efficacité d'un produit, des recommandations que leur font maintenant les autorités de santé administrative. C'est-à-dire que le médecin a le pouvoir de réguler sa prescription. C'est le prescripteur, hein, in fine, le médecin. Et le médecin peut dire, je prends un générique ou pas. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc les génériques, il est clair que l'industrie pharmaceutique a tout fait pour dire que le générique n'est pas le médicament en principe. L'industrie pharmaceutique qui travaille avec les pharmaciens, qui sont en grève aujourd'hui, peut parfaitement dire que c'est pas pareil de donner une aspirine derrière un comptoir de la pharmacie, machin, par rapport à un supermarché. Le médecin peut dire ce qu'il pense, c'est-à-dire que, un, le générique est tout aussi bien que le médicament princeps, et que, deux, je vois pas pourquoi l'aspirine serait à prescrire obligatoirement chez un pharmacien. Les statines en Angleterre, dont je vous disais, il y a un problème, je dirais, économique derrière, les Anglais ont été très clairs. On rembourse pas au-delà d'un certain risque. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez acheter vos statines, étant donné qu'elles sont sans effet secondaire pratiquement, vous les achetez ce qu'on appelle OTC, over the counter. C'est-à-dire, elles sont libres d'accès. Pas en France. Donc le médecin peut... C'est ce que je fais ce soir, hein. Mais bon, c'est enregistré, hein, tout ça, c'est bien.
Oui, on pourra couper si tu me demandes. Hein.
Pas du tout.
Voilà. Bien, pas d'autres questions ? Bon, ben, on peut remercier donc Pierre Corvol. Voilà.